Bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis, bienvenue parmi nous ce matin. Vous êtes les tout premiers êtres connectés. Que Dieu vous bénisse. La belle-mère, bonjour. Sachez que je vous salue de tout cœur. Hier, j'ai eu des remontrances parce que j'ai oublié de la saluer. Donc, ça ne se, ça, on ne dira pas que c'est arrivé 2 jours de suite. Alors, bonjour, bonjour, bonjour la belle-mère. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je me suis acquitté de mon rôle de beau-fils. Et là, j'attends le cœur qui devrait apparaître sous peu pour m'indiquer que j'ai effectivement reçu l'approbation et le pardon de la belle-mère. Bonjour à Immacula, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Bonjour à mon père et à ma mère. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à la sœur Susanna. Non, je crois que la belle-mère ne va pas vouloir me pardonner parce que je n'ai pas salué là où les belles-sœurs qui sont avec elle. Donc la belle-mère, je vous salue et je salue aussi là où les belles-sœurs qui sont avec vous. Voilà. C'est fait. Maintenant, j'ai droit à mon pardon et à ma grâce de la part de la belle-mère. Blague à part, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne journée hier. Encore aujourd'hui, il va faire chaud, on se levait ce matin, c'était déjà humide. Donc on espère que vous avez la climatisation pour vous aider un peu. Et que vous saurez tempérer la maison. Malgré la canicule qui sévit actuellement. Bonjour à la sœur Argelia. Bonjour à la sœur Rosie. Bonjour Guy, que Dieu te bénisse. Hello, Tante Luce. Hope you're doing fine in New York. Is it as hot as it is in Montreal lately? We're around the 30 degrees, but with the humidity factor, we're going up to 40 degrees. So it's quite painful, at least for me. Bonjour Raymond, que Dieu te bénisse. Regardez, elle me remercie pour ma fidélité et ma constance, mais elle ne m'accorde pas son pardon. Comment ça? J'ai fait tout ce que je devais faire pour la saluer adéquatement, saluer les belles-sœurs. Et là, voilà, ça doit être caché dans le shalom. La paix, ça doit être ça. Ça doit être ça. Bonjour Natacha. Bonjour Indirène. Et bonjour la petite famille. Non, Daphné est encore au travail. Les vacances, ce n'est pas pour l'instant. Ça va être plus tard. En tout cas, si la belle-mère ne m'accorde pas son pardon, il y en a d'autres qui me l'ont accordé, hein? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il doit me manquer du café aujourd'hui, ça doit être pour ça que je suis dans cette humeur. Bendiciones a usted también, hermana Flori. Bonjour à ceux qui se connectent via la page Internet de l'Église ou via les moteurs de recherche ou même encore ceux qui vont nous écouter en différé. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue parmi nous. Jonathan, tu cherches à disculper ta mère ou tu cherches à amoindrir le grand débat? So you're gonna be under hot weather too in New York. I don't like summer. I like it even lesser while it's so humid. Bonjour à ma mère qui s'est connectée là cette fois-ci elle aussi. Bonjour Lucie, j'espère que vous allez bien. Jonathan, il faut me dire si la belle-mère se sent saluée ou non. Mon poète, est-ce que tu es de retour? Es-tu de retour à Montréal ou es-tu à l'écoute au loin en territoire étranger? Sois béni, Jimmy. Bonjour Thérèse, que Dieu te bénisse. Hello Sylvia, God bless you. Bonjour. Good morning to Pastor David also. Bonjour Pascal. Bonjour Gabriel. Bonjour Jean-Bernard. Alors, Jimmy, j'espère que vous avez eu du bon temps chez nos voisins ontariens. Bonjour Maggie, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'Eduardo se porte un peu mieux. Bonjour Rachel. Que Dieu te bénisse. Et bonjour aux sœurs qui sont avec toi ce matin encore. Mona, Chantal, Ocilia. Et s'il y en a d'autres, tu les salues de notre part. Bonjour Myriam, bonjour Donald. Bonjour Jocelyne, bonjour Jacques, soyez bénis. Encore quelques minutes. Alors, Jimmy, tu vas pouvoir reposer ton dos maintenant que tu es rentré à Montréal. Le retour au travail, en général, c'est bon pour se reposer. Super, Maggie. Vous le saluez de notre part. Donc, on vous rappelle que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche en présentiel ont lieu. Les enfants de 6 ans et plus peuvent accompagner leurs parents. Donc, on vous invite à ne pas vous priver de cette assemblée et de l'occasion de venir célébrer Dieu en famille. Bonjour Marie-André, bonjour Farley. Alors pour ceux qui veulent prendre des notes, prémunissez-vous de crayons et de papier parce que j'ai quand même plusieurs termes en grec aujourd'hui. D'accord, alors on va prier et puis après ça, on donne la thématique pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour cette autre journée que nous avons pour te célébrer, pour t'adorer. Et aussi Seigneur pour plonger nos regards dans ta parole ce mois-ci. Seigneur, on met cette emphase sur l'importance que doit avoir ta parole pour nous. Donc nous te demandons Seigneur d'ouvrir notre entendement, de nous éclairer, de nous instruire et de faire en sorte que ce moment, Seigneur, soit profitable pour notre croissance, pour notre proximité avec toi, pour notre marche sous ton regard. Que tout cela, Seigneur, soit encouragé, fortifié par la parole de ce matin. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous en sommes à notre septième symbole concernant la parole. Vous savez que ce mois-ci, on met donc une emphase toute particulière sur la parole de Dieu comme thématique en soi. Et lors de nos bénédictions matinales, on essaie de développer à chaque jour une des images que la Bible nous donne concernant la parole de Dieu. Aujourd'hui, on voit la question de l'épée. La parole de Dieu comme une épée de protection et une épée de dissection. Donc, je répète, la parole de Dieu comme une épée de protection et de dissection. Deux versets qu'on va étudier, qu'on va expliquer tout à l'heure. Donc, Éphésiens 6, verset 17. Éphésiens 6, verset 17 que vous connaissez tous, et puis par la suite, Hébreux 4, les versets 12 et 13, Hébreux 4, les versets 12 et 13, mais on retrouve le terme épée aussi dans trois autres passages de l'Apocalypse. Je vous les donne tout simplement pour ceux qui prennent des noms, des notes, qui voudraient avoir donc la nomenclature de tous les passages du Nouveau Testament où le terme épée est utilisé en trait avec la parole de Dieu. Donc, on le retrouve aussi dans Apocalypse 1.16, dans Apocalypse 2.16 et dans Apocalypse 19.15. Donc, Apocalypse 1.16, 2.16 et 19.15. Dans ces trois versets de l'Apocalypse, on nous présente le Seigneur avec une épée qui sort de sa bouche. Donc, c'est une image, c'est figuratif, assurément, mais ça nous parle aussi du lien étroit qu'il y a entre la parole de Dieu et notre Seigneur, la parole qu'il habite et la parole qu'il utilise comme une épée sortant de sa bouche. Mais nous, ce matin, on va se limiter donc à Éphésiens 6, 17 et 4, Hébreux 4, 12 et 13. Pour ceux qui se demandent pourquoi ne pas avoir pris d'autres passages, tout simplement parce que les autres passages qui mentionnent le terme épée dans le Nouveau Testament, ça va être des passages dans les évangiles, notamment au moment où Pierre va, le jour de l'arrestation de Jésus, Pierre va sortir son épée pour couper l'oreille d'un serviteur. Donc, ça n'a aucun lien avec la parole. J'ai sorti tout simplement les cinq versets plutôt, liés donc avec la parole de Dieu. Donc, Éphésiens 6, 17. Qui nous dit « Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Donc, c'est dans le passage de Paul aux Éphésiens où il mentionne toute l'armure que le chrétien devrait avoir. Et certains nous disent que, au-delà de toutes les caractéristiques de l'armure qui sont défensives, l'épée est une arme offensive. Et ils ont partiellement raison. C'est vrai qu'on nous parle du casque, on nous parle du plastron, on nous parle de la ceinture, on nous parle des chaussures, on nous parle du casque de... comment on appelle déjà là, c'est pas le plastron, c'est pas une armure, c'est... je retrouverai le terme plus tard. En tout cas, on nous parle de différentes armes qui sont défensives, et on a tort, par contre, de croire que l'épée est strictement offensive. En fait, l'épée qu'on nous donne, elle a deux fonctions. Une qui est défensive, le bouclier, merci Jonathan. Donc, l'épée est à la fois défensive et offensive. L'épée est une arme défensive quand on se rappelle des promesses de Dieu à notre égard. Donc, assurément, ça fortifie notre âme, assurément, ça nous fait du bien, et par conséquent, elle est partie prenante de notre défensive. Lorsque on se rappelle aussi les préceptes, les commandements et les voies de Dieu, cela est une arme défensive pour nous, parce que ça nous empêche de tomber dans le péché, ça nous empêche de tomber dans les pièges du diable, ça nous permet d'éclairer notre sentier pour que les traquenards que le diable voudrait prendre devant nous soient dissipés. Donc, à la fois, la Bible est-elle, et la parole de Dieu est-elle une arme défensive? Mais elle est aussi une arme offensive. Donc, défensive parce qu'elle nous rappelle les promesses que Dieu a faites à notre égard, parce qu'elle nous rappelle comment nous conduire devant Dieu et cela nous protège. Arme offensive, tout simplement, Jésus va l'avoir utilisée à la fois comme arme défensive pour ne pas céder à la tentation, mais aussi pour repousser le diable. Lorsqu'on voit que Jésus va être tenté par trois occasions, ce qu'il va faire comme défense, et ce qu'il va faire pour clore la bouche du diable ou fermer la bouche du diable, il va utiliser la parole de Dieu. Il va dire, il est dit, voici, voici, voici. Il est dit, voici, voici, voici. Il est dit, encore ceci et cela. Donc, la Bible nous sert effectivement pour contre-attaquer le diable. Alors, c'est une arme offensive quand on rappelle au diable la condamnation divine qui est prononcée contre lui. Donc, lorsqu'on lui rappelle que son avenir est déjà arrêté, que ce sera pour l'éternité dans l'enfer, rejeté de la présence de Dieu, qu'il est déjà condamné, qu'il est déjà déclaré vaincu, qu'il est déjà destiné pour cette éternité dans l'enfer. Donc, pour nous, ça, c'est une arme offensive. De surcroît à cela, la parole de Dieu nous montre aussi comment utiliser notre autorité face au diable et face au mal. Donc, en ce sens, puisqu'elle nous apprend comment prendre autorité, comment résister au diable, comment le faire fuir, donc par conséquent, c'est aussi une arme offensive. Donc, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, telle que nous dit Éphésiens 6, 17, est donc une arme offensive et une arme défensive. Aujourd'hui, je voulais m'arrêter sur un passage qu'on connaît assez, qu'on récite probablement assez régulièrement, mais qu'on étudie peut-être pas dans la profondeur des termes qui sont utilisés. Alors, je vous invite à ouvrir avec moi dans Hébreux au chapitre 4, le verset 12 et 13. Hébreux 4, les versets 12 et 13. Pour ceux qui prennent des notes, pendant qu'on cherche Hébreux 4, 12 et 13 dans vos Bibles, le terme épée en grec, c'est le terme makaira. Donc, M-A-C-H-A-I-R-A, makaira, M-A-C-H-A-I-R-A, qui veut dire épée, qui veut dire glaive, qui veut dire couteau. Voilà. Donc, Hébreux 4, 12 et 13 nous disent, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, à découvert, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je répète le verset 13 parce que c'est important dans l'interprétation de l'épée, non pas simplement comme un instrument de protection, mais aussi comme un instrument de dissection. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Tout est mis à nu devant celui à qui nous devons rendre des comptes. Et c'est là où l'épée devient un instrument de dissection. L'idée est tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Donc revenons sur chacune des fonctions de cette épée ou chacune des actions que pose cette épée. On nous dit tout d'abord, car la parole de Dieu est vivante. Vivante, un terme qu'on a déjà utilisé à quelques reprises lors de nos bénédictions matinales, le terme Zao, Z-A-O, qui veut dire qu'elle est vivante et aussi source de vie. Donc la parole n'est pas un texte mort. La parole n'est pas un texte sans effet. La parole n'est pas un texte comme un livre quelconque qu'on lirait tout simplement pour nous distraire. La parole suscite chez nous des choses. Et une de ces choses, c'est que non seulement elle est vivante, mais elle suscite aussi la vie. On l'a mentionné lorsqu'on étudiait l'image de la semence et on disait que la parole de Dieu était source de vie. Ici, c'est un peu la même idée qui est reprise lorsqu'on dit qu'elle est vivante, qu'elle est Zao. Donc, elle est vivante et par conséquent, elle apporte aussi la vie. Alors que si le texte biblique était mort, à ce moment-là, il ne pourrait dégager ou susciter la vie chez le lecteur que nous sommes. Donc, la parole de Dieu, contrairement à n'importe quel autre livre, est le seul qui peut amener à la vie éternelle et le seul qui peut rendre sage à salut. Donc, vivante, Zao, vivante et donc source de vie. On nous dit qu'elle est vivante et efficace. Le terme efficace, c'est le terme grec energes, E-N-E-R-G-E-S, energes, E-N-E-R-G-E-S, qui veut dire active et puissante. Ça veut dire que cette parole est en action. Elle n'est pas donnée pour ne pas porter du fruit. Elle n'est pas donnée sans attente d'un retour en conséquence. Cette parole travaille le cœur. Cette parole travaille la vie. En fait, nos vies devraient être transformées par l'action de la parole. La parole de Dieu devrait avoir un effet en nous. Et la Bible nous dit que cette parole ne retourne pas à Dieu sans avoir produit l'effet pour lequel elle a été proclamée. Donc cette parole est active, elle travaille, Mais de surcroît à cela, elle est non seulement active, mais puissante. Le terme « énergès » va avoir ces deux connotations. Une parole qui bouge, qui s'active, qui travaille et qui a une puissance qui est dégagée de cette dite parole. On nous dit qu'elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Plus tranchante. Plus tranchante, c'est le terme Thomos. T-O-M-O-S. T-O-M-O-S, Thomos, plus tranchante. Donc, qui coupe davantage. Et là, c'est l'idée que l'auteur aux Hébreux veut donner à ses lecteurs. Comme quoi, regardez, lorsque vous regardez cette parole, celle-ci va aller couper beaucoup plus profondément. Celle-ci va aller trancher de façon beaucoup plus efficace que toutes les bonnes épées que vous pourriez connaître ou que tous les bons couteaux que vous pourriez connaître. Vous savez mon affection pour la cuisine et quand on veut me faire un cadeau que j'apprécie bien, c'est toujours des articles de cuisine. Mon épouse le sait. Encore cette année, elle m'a donné, lors de mon anniversaire, en fait, l'année dernière, m'a donné des couteaux parce qu'elle sait que je suis tout le temps à la recherche d'un bon couteau affûté qui fonctionne bien. Je dois même amener certains de mes couteaux se faire affûter bientôt. Mais c'est agréable de travailler avec un couteau qui fonctionne bien. C'est même dangereux, les chefs cuisiniers vous diront, ou ceux qui travaillent en cuisine vous diront, c'est même dangereux de travailler avec des couteaux qui ne tranchent pas. Parce que vous allez forcer, puis à un moment donné, ça va céder, et c'est à ce moment-là que les accidents arrivent. Par contre, si vous êtes sûr que votre couteau est bien affûté, il va couper sans forcer. Il va couper même dans les parties de viande qui sont plus dures, plus denses. Ça va aller là-dedans comme un couteau chaud dans du beurre. Donc, l'idée ici pour le lecteur, c'est de savoir que cette parole va faire une action de dissection dans notre vie. Et là, dans les prochains passages qu'on va voir, ou dans les prochains termes qu'on va voir, on va voir ce que la parole de Dieu dissèque, ce qu'elle sépare, ce qu'elle coupe dans nos vies. Donc, Paul va dire, puisqu'on présume que c'est lui l'auteur aux Hébreux, même s'il n'est pas officiellement nommé comme étant l'auteur, mais on présume, la plupart des exégèses présument que Paul est effectivement l'auteur aux Hébreux. On va dire qu'elle est donc tranchante, très tranchante, plus tranchante même qu'une épée à double tranchant, qui était à cette époque-là les épées qui étaient utilisées par l'armée romaine notamment, et qui étaient la force de cette armée, du fait qu'elles avaient maîtrisé le fer, elles maîtrisaient la forgerie, elles maîtrisaient l'art de créer des couteaux et des épées, et de surcroît à cela, elles avaient des épées qui n'étaient plus maintenant simplement avec un seul tranchant du côté de la lame, mais qui avaient deux tranchants. Alors, dans un même mouvement de va-et-vient, elle avait deux répercussions dans la pièce de viande, voire dans le soldat adverse qui se trouvait devant le soldat romain. Alors, on nous dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Pénétrante, le terme dikénomai, donc D-I-K-K-N-E-O-M-A-I. Je répète, en fait, je l'ai mal épelé, c'est D-I-I-K-N-E-O-M-A-I. Et ici, pénétrante, c'est dans l'idée que ça passe à travers. Ça passe à travers quoi? Ça passe à travers les armures. Ça passe à travers les couches du corps humain pour aller, on nous dit, jusqu'au plus profond, voire même jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Pénétrante, donc ça veut dire qu'il n'y a pas une armure qu'on pourrait mettre et qui résiste à la parole de Dieu. Même la tête la plus têtue, la tête la plus bornée, fermée, ne peut pas résister à la parole de Dieu. Celle-ci finit dans un moment ou dans un autre, dans un secteur ou dans un autre, à pénétrer. Et cette parole devrait avoir cet effet chez toi et chez moi qui pénètre jusqu'à séparer l'âme de l'esprit, les jointures de la moelle. Donc, elle vient jusqu'à partager, elle est pénétrante, et elle vient jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Partager, le terme merismo, qui sépare, qui divise, qui lie en groupes distincts. Donc ici, c'est encore cette idée de dissection. Ceux qui ont peut-être au secondaire, en tout cas c'est à cette époque-là que nous on l'a fait en biologie, on a eu à disséquer des grenouilles. Donc on prenait une grenouille qui était déjà morte dans notre cas. On n'était pas assez fournis en grenouilles vivantes, donc on les voyait pas. Et peut-être qu'il y aurait eu des estomacs sensibles qui seraient tombés malades. Mais on ouvrait la grenouille, puis on ouvrait le thorax, puis là on regardait les différents organes, le cœur, le ci, le ça. Et on voyait comment cette grenouille fonctionnait avant qu'elle ne soit morte, bien entendu. Donc, ça permettait de séparer sans briser les organes. Et lorsqu'on parle ici que cette parole est pénétrante, c'est qu'elle va être capable de séparer de nous les différentes factions, les différentes fonctions, les différentes facettes de notre vie. Ça veut dire que cette parole est capable de discerner ce qui est de l'humain, de ce qui est du divin, ce qui est des émotions, de ce qui est du spirituel, ce qui est des émotions, de ce qui est du charnel. Et voilà pourquoi il est tellement important de se retourner vers le Seigneur, sachant lorsqu'on a un problème qu'il est celui qui sait comment le cœur, le corps, l'âme, l'esprit, le psychologique, le psychique doit fonctionner chez chacun d'entre nous. Il est capable de faire la part des choses, à savoir la problématique de Florent, elle se trouve où aujourd'hui? Se trouve-t-elle dans le spirituel? Se trouve-t-elle dans le physique? Se trouve-t-elle dans l'émotionnel? Se trouve-t-elle dans sa démarche avec Dieu? Où se trouve la problématique? Et Dieu est capable de séparer ces choses-là en bloc et de traiter donc ces choses-là de façon spécifique. On nous dit qu'elle vient à partager le psyché du pneuma, l'âme de l'esprit, psyché, P-S-Y-C-H-E, pneuma, esprit, P-N-E-U-M-A. Donc, elle vient partager le psyché, ce qui est des émotions, du désir, des passions, de ce qui est du pneuma, l'esprit, donc ce qui nous permet d'être en contact avec l'Esprit de Dieu. Ça va un peu dans la parole qu'on a mentionnée hier, où on parlait des cas de fausses prophéties, et on disait dans bien des cas, c'est des gens qui prennent leurs propres pensées pour les pensées de Dieu. Donc Dieu est capable de séparer ces choses-là, ce qui est des pensées de l'homme, des sentiments de l'homme, de ce qui vient de l'Esprit même de Dieu. Et cette parole-là devrait nous permettre à nous de différencier dans nos vies aussi ce qui vient de nous, de ce qui vient de Dieu, de ce qui vient de nos émotions versus ce qui vient de l'Esprit de Dieu. On parlait en disant hier que certaines personnes ont tout simplement un sentiment par rapport à une situation et ces sentiments bouillonnent tellement à l'intérieur d'eux qu'ils pensent que Dieu est en train de parler et qu'ils se mettent à improviser une parole comme étant un réma, comme étant une parole qui vient de Dieu, mais dans le fond, c'est tout simplement conséquence ou conséquemment aux émotions qui les habitent, qu'ils se mettent à parler, mais ça ne vient pas de Dieu. Donc la parole de Dieu devrait nous servir comme baromètre, comme instrument qui nous permet de disséquer ce qui vient de Dieu, de ce qui vient de nous, ce qui vient de nos émotions, de ce qui vient d'une inspiration réelle de la part de Dieu. On nous dit de surcroît à cela que ça partage l'os et la moelle, ou les jointures et la moelle. Ça, c'est dans l'idée qu'elle est tellement pénétrante qu'elle va jusqu'à séparer chacune des parties de notre corps. L'image qui est donnée ici pour nous, c'est un peu abstrait. Un boucher peut-être pourrait comprendre ça. Mais lorsque Paul s'adressait aux Hébreux, il était en train de leur donner une image qu'ils avaient déjà vue, qu'ils connaissaient déjà, puisqu'ils avaient vu le souverain sacrificateur avec les Lévites qui servaient dans le temple et qui étaient capables, lorsque une victime était offerte au Seigneur, lorsqu'une bête était offerte en sacrifice, qui étaient capables de séparer les parties qui allaient pour Dieu des parties qui revenaient à l'homme. Et ici, c'est cette image qui est donnée au peuple juif, aux chrétiens, d'origine juive, puisque c'est l'épître aux Hébreux, où on leur dit, vous vous rappelez ce qui se passait lorsqu'on faisait les sacrifices et lorsque les sacrificateurs venaient et avec leurs couteaux si aiguisés, si affûtés qu'ils étaient capables de séparer les jointures des os, donc séparer un os d'un autre sans briser les os, et de surcroît à cela qui étaient capables à même de rentrer dans l'os jusqu'à séparer la moelle de l'os. Et ils faisaient cette même opération que le sacrificateur faisait par rapport à la victime qui était offerte en sacrifice. Cette même chose est opérée par la parole de Dieu dans notre vie, qui vient disséquer au plus profond de notre être, assurément si on lui permet de le faire auprès de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il est important de se retourner vers la parole de Dieu, pour que celle-ci puisse entrer profondément en nous et retirer de nous ce qui n'est pas bon, retirer de nous ce qui ne glorifie pas le Seigneur, et que le Seigneur, par la même occasion, au même titre où l'intérieur de la bête qui était sacrifiée était exposé, au même titre que notre intérieur soit à nos yeux bien exposé. Très régulièrement, on joue à l'autruche, on essaie de se fermer les yeux en se racontant des histoires. Puisque je ne le vois pas, je ne le sais pas. Puisque je ne le vois pas, je ne suis pas donc coupable. La parole de Dieu vient éclairer. La parole de Dieu vient bien disséquer les choses. La parole de Dieu nous permet de voir où l'orgueil se place, où l'insoumission est peut-être en train de se placer dans ma vie, où la rancœur est peut-être en train de se placer dans ma vie, où l'hostilité par rapport à mes frères et à mes sœurs est peut-être en train de se placer. Parfois, on va cacher ces choses-là par une certaine spiritualité, par une certaine démarche intellectuelle, par un certain vécu, par une croyance que les gens ne nous comprennent pas, que les gens ne nous saisissent pas. La parole de Dieu vient nous confronter au plus profond de nous-mêmes avec ce que nous sommes réellement. La parole de Dieu, on disait tout à l'heure, elle est une arme défensive parce qu'elle nous rappelle aussi les préceptes et les voies de Dieu. Elle nous expose à la parole de Dieu, elle nous expose aux pensées de Dieu et elle nous révèle en quel point notre être intérieur diffère de la pensée de Dieu. Comment l'orgueil a gagné? Comment l'orgueil s'immisce en moi? Comment la rancœur s'immisce en moi? Comment le manque de pardon s'immisce en moi? Comment le fait de ne pas être en paix avec les autres s'immisce en moi? C'est parfois de façon graduelle, mais lorsque le Seigneur fait un travail régulier de dissection et lorsque je demande à la parole de Dieu de faire ce travail régulier de dissection, je suis exposé avec mes propres entrailles, avec mes propres racines de ce qui ne glorifie pas Dieu. Donc, partage l'os de la moelle ou les jointures de la moelle, puis nous dit aussi qu'il juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Ici, juger, c'est le terme kritikos. Vous comprenez ce que ça veut dire juste avec le terme. Donc, kritikos, capable de discerner, capable de rendre un verdict. Le verdict qui est rendu par rapport aux pensées et par rapport aux sentiments, ce n'est pas une pensée rationnelle, ce n'est pas une pensée qui repose sur la sagesse de l'homme, mais une pensée qui repose sur la parole de Dieu. Cette parole amène les pensées et les sentiments qui nous habitent en jugement. Cette parole vient critiquer les sentiments et les pensées qui m'habitent. Les sentiments, c'est le terme antimesis, E-N-T-Y-H-M-E-S-I-S, antimesis, E-N-T-H-Y-M-E-S-I-S, qui nous parle des pensées, des considérations et des opinions. Donc Dieu regarde mes pensées par rapport à une chose et mes pensées par rapport à cette chose sont jugées. Prenons pour exemple ce que je pense par rapport à ma sœur. Dieu vient juger ce que je pense par rapport à ma sœur. Ce que je crois par rapport à mon frère. Dieu vient juger ce que je crois par rapport à mon frère. Voilà pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 13, va dire que l'amour ne soupçonne point le mal. Que si l'amour nous habite, ne va pas présumer du mal. Ne va pas regarder un frère en disant « Ah, je suis convaincu qu'il l'a fait pour mal faire. Je suis convaincu qu'il l'a fait pour me faire mal. » Quand tu dis « Il l'a fait pour faire mal », c'est que tu es capable de juger à l'intérieur de lui. Alors, à moins qu'il ne le dise, à moins qu'il ne le confirme, la seule chose que tu fais, c'est présumer. Et la seule qui peut le faire, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu vient juger ton sentiment, vient juger ta pensée, vient juger ton opinion par rapport à ton frère. Quand tu regardes ton frère de haut, quand tu regardes ta sœur de haut, quand tu méprises ton frère, quand tu méprises ton prochain, Dieu regarde cela et il juge ta pensée. La parole de Dieu vient juger ton sentiment, ta pensée, ta considération, ton opinion. Alors voilà pourquoi c'est bon d'avoir la pensée de Dieu qui nous habite. Lorsque nous regardons, il y avait ce cantique qu'on chantait il y a encore quelques années, « Permets-moi de voir avec tes yeux, permets-moi de sentir avec ton cœur. » Ça devrait être notre prière aujourd'hui. Si on ne veut pas que la parole de Dieu vienne juger négativement ou défavorablement nos pensées, notre opinion, nos croyances, encore faudrait-il que nous puissions voir, que nous puissions sentir comme Christ avec sa pensée. Lorsqu'on parle ici maintenant de sentiment, puis de pensée du cœur, la pensée, c'est le enoia. Enoia, donc E-N-N-O-I-A, E-N-N-O-I-A, sentiment, puis pensée du cœur. Et ici, enoia veut dire les intentions ou les motivations. Non seulement la parole de Dieu rend un verdict sur tes propres verdicts, non seulement la parole de Dieu rend un jugement sur tes jugements, mais la parole de Dieu rend aussi un jugement sur les motivations de tes jugements. Et assurément, je suis le seul à avoir de mauvaises motivations. Assurément, je suis le seul qui juge régulièrement avec des motivations très personnelles, très égocentrées, très égoïstes, très orgueilleuses. Et je sais que je parle à des chrétiens qui sont fervents, qui aiment Jésus et qui ont été transformés. Mais soyons honnêtes, nous jugeons régulièrement avec de mauvaises intentions. On dit, mais je fais ça pour avoir une bonne opinion ou je fais ça pour aider la personne. Est-ce vraiment cela ou tu fais ça pour dénigrer la personne? Est-ce vraiment ça ou tu fais ça pour toi passer plus élevé que l'autre? Lorsque le pharisien était dans le temple et qu'il critiquait le publicain en disant « Oui, moi je jeûne X nombre de fois par semaine. Moi je ne suis pas comme ce publicain. Je donne ma dîme, je donne aux pauvres, j'étudie la parole de Dieu, patati patata. » C'était vrai. C'était tout à fait pertinent ce qu'il disait. C'est vrai qu'il n'était pas comme ce publicain qui avait la réputation d'être voleur ou autre. C'est vrai que le pharisien, parce qu'il était très religieux, parce que c'était un des groupes religieux les plus sectaires et les plus fervents, qu'il faisait attention à chacune des actions qu'il faisait. Alors, c'est vrai qu'assurément, ils n'étaient probablement pas un voleur. Il est vrai qu'assurément, il était pieux dans sa pratique. Mais lorsqu'il se levait pour proclamer tout cela à voix haute, c'était pour que les gens l'entendent, pour que les gens le remarquent. Et hier, on disait, pour celui qui prophétise de fausseté ou qui prophétise sans que Dieu lui ait demandé quoi que ce soit, c'est très souvent parce que la personne veut être remarquée, veut être regardée. Alors, quand tu travailles pour Dieu, tu le fais pour quoi? Pour honorer Dieu simplement ou en espérant qu'effectivement l'homme te remarque? Lorsque tu juges quelqu'un, lorsque tu utilises ta parole pour disséquer quelqu'un, tu le fais pour quoi? Pour l'aider à être mieux demain ou pour lui montrer que toi tu es un peu plus élevé? Dieu juge non seulement nos sentiments, mais juge aussi les motivations de nos actions, les motivations de nos paroles, les motivations pour lesquelles nous intervenons d'une manière ou d'une autre. Alors faisons attention, parce que cette parole est une épée à double tranchant, mais une épée à double tranchant qui ne sert pas à démolir ton voisin, mais qui à prime abord devrait servir à disséquer ta propre vie, à te révéler à toi-même tes propres entrailles. Dieu veut séparer dans ta vie ce qui est de lui, de ce qui n'est pas de lui, des choses qui le glorifient, de ce qui ne le glorifie pas. Dieu voudrait te mettre directement face aux choses de ta propre vie, aux choses de ton propre être intérieur, qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas au standard de Dieu. Et la parole de Dieu, la première efficacité est dans ta propre vie. Alors je prie que la parole de Dieu puisse me disséquer aujourd'hui. Je prie que la parole de Dieu, oui, puisse me protéger, mais qu'elle puisse aussi me disséquer aujourd'hui. Je veux permettre à Dieu d'ouvrir mon être profondément et qu'il me dise, regarde Florent, comment est ton cœur? Voilà quelles sont vraiment tes motivations pour que je puisse abandonner ce qui n'est pas du Seigneur, pour que je puisse abandonner ce qui ne le glorifie pas. Je prie que tu aies cette même prière pour toi-même aujourd'hui. Seigneur, ta parole est effectivement une épée à double tranchant qui tranche jusqu'au plus profond de notre être. Elle est assurément une arme de protection, arme défensive, arme offensive contre l'ennemi, mais assurément aussi, elle est cet instrument, ce scalpel spirituel que tu utilises pour nous confronter avec notre propre nature, avec la réalité et avec la vérité de notre être. Et Seigneur, lorsque tu ouvres, nos entrailles ne sont pas toujours belles. Lorsque tu nous confrontes avec ce qu'on est à l'intérieur de nous, je prie, Seigneur, qu'on ait l'humilité. Un, de demander pardon, l'humilité aussi, Seigneur, de te demander de nous changer, de nous transformer. Assurément, lorsque ta parole nous éclaire sur notre réel état, la réponse devrait être, Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Fais-moi grâce. Comme ce publicain qui se frappait la poitrine en disant, Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Seigneur, nous implorons ta grâce aujourd'hui. Nous ne voulons pas nous fermer les yeux à notre propre réalité. Avant même, Seigneur, de regarder chez notre voisin la paille qu'il a dans son œil, nous voulons effectivement regarder la poutre que nous avons dans le nôtre. Seigneur, ouvre-nous. Amène les parties cachées de notre être à la lumière. Dissèque, Seigneur, nos vies, afin, Seigneur, que nous puissions implorer ta grâce et que nous puissions être transformés. Afin, Seigneur, d'être sur l'autel divin, cette victime qui t'est agréable, parce qu'elle a été nettoyée, sanctifiée, purifiée. Montre-moi, Seigneur, là où tu veux encore travailler. Seigneur, ne me cache pas la vérité de mon être. Que je sois confronté avec mon péché, avec mon iniquité. Que je sois confronté, Seigneur, avec mes mauvais penchants, avec mon mauvais caractère, avec mes mauvais traits de caractère. Que je sois confronté, Seigneur, avec les mauvaises motivations de mon cœur. Afin, Seigneur, que je n'ai aucune autre excuse de continuer ainsi. Mais que j'implore ta grâce et que j'implore, Seigneur, ta main transformatrice et ta parole transformatrice en moi. Je ne peux prier ainsi que pour moi-même. Mais Seigneur, je souhaite ardemment que ma sœur et que mon frère aient cette même prière. Parle-nous, instruis-nous. En toute chose, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi. Amen. Voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. La parole de Dieu, une épée de protection, oui, mais aussi un scalpel de dissection. Et je prie que tu ne sois pas... En fait, oui, je prie que tu sois confronté avec la réalité de ton état. Parce que si tu ne l'es pas, tu ne changeras pas. Alors, mon frère, je prie que la parole de Dieu te soit profitable aujourd'hui et que tu reçoives cette parole avec un cœur humble et un cœur qui veut grandir devant Dieu. Alors voilà ce que nous avions. On vous rappelle les inscriptions, ne tardez pas. Inscription pour l'assemblée de dimanche. Les premiers appels auront lieu demain pour confirmer. Donc inscrivez-vous, soit au téléphone de l'église, sur sa boîte vocale, ou sinon par courriel, non pas par Facebook, non pas par Messenger, mais vraiment à l'adresse courriel, à l'adresse Gmail de l'Église. Sur ce, bonne journée à tous. On se retrouve demain. Et demain, ça sera la parole de Dieu comme une encre solide. Cette encre qui est accrochée à un bateau, à une barque. Alors voilà ce que nous aurons demain. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.